Bonjour, je suis Olivier Aymon. Dans l'épisode précédent de Mars, la nouvelle Odyssée, nous avons découvert ce nouvel appétit politique et scientifique pour la planète rouge. Montons maintenant à bord d'un des derniers aboutissements de cette recherche internationale, Persévérance, la nouvelle voiture bardée d'instruments prête à arpenter le sol martien. Et nous sommes toujours avec Sylvestre Maurice, astrophysicien à l'IRAP, l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie à Toulouse. Mars, la nouvelle Odyssée, épisode 4, à la recherche de la vie.
On a du mal à croire aujourd'hui qu'il y ait de la vie sur Mars. C'est-à-dire qu'à la surface, on est en dehors de ce qu'on appelle les conditions d'habitabilité. Mais déjà, il faut définir la vie. Et c'est ça compliqué dans cette question, c'est quoi la vie ? Alors les gens nous reprochent souvent de chercher la vie qu'on a sur Terre. Mais c'est vrai, on est un peu biaisé. Ceci dit, il y a des lois de la physique et de la chimie qu'on connaît très bien. Et partant de cela, on sait que la vie est sur un atome particulier, c'est l'atome de carbone. Parce que c'est le seul qui va faire des molécules super complexes. Ou bien la vie, c'est deux petites molécules qui se battent en duel, alors là c'est vrai, on n'a rien compris. Mais n'empêche que tout ce qu'on trouve de vivant est sur la base d'un seul élément, qui est la chimie du carbone. Une chimie qu'on appelle la chimie organique. Après, je regarde mon tableau de Mendeleïev, là, celui où il y a tous les éléments. Je dis, est-ce que je peux faire une chimie avec autre chose ? Non, l'azote, non, il y a trois liens, ça ne marche pas bien, ça fait des petites molécules. Ah, s'il y en a un qui pourrait être sympa, c'est le silicium. Après, quand je regarde ça, je dis, bon, la vie, c'est probablement du carbone, ça ne peut pas être autre chose. Donc, la chimie du carbone, chimie organique, je vois un peu comment ça se développe. Bon, il me faut des éléments, moi, je vais les appeler les schnops, le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore, le soufre, et ça fait à peu près, ça vous fait, vous. Je vous rajouterai peut-être un peu d'autres choses, potassium, du calcium si vous voulez, mais les schnops c'est vraiment la base de la chimie organique. Donc j'ai mes éléments, je sais aussi que si j'ai mon carbone ici, si j'ai mon oxygène, mon azote, s'ils se regardent les uns à un mètre l'un de l'autre, ça ne va pas avancer. Il faut que je les mette ensemble, les approcher pour faire une réaction chimique. Ça nécessite un solvant, et le solvant de la chimie organique c'est de l'eau liquide. Et puis l'eau liquide, je connais les conditions de pression, de température, donc je connais plein de choses. Et à la fin, je sorte de loi universelle qui dit, s'il y a de la vie, ça doit démarrer par les conditions de l'habitabilité, donc cette fameuse eau liquide, pas trop salée, etc. Et puis après, probablement laisser du temps pour qu'on parte sur des molécules assez simples qui deviennent de plus en plus compliquées jusqu'à former un jour une cellule et puis après un noyau. Et on le sait parce que ça a marché sur la Terre. C'est ça qui est bluffant, c'est que ce schéma de la vie, on l'a sur Terre. Mars, au départ, c'est la Terre. C'est-à-dire c'est une planète qui est formée par accrétion. Donc il y a plein d'éléments qui tombent, plutôt rocheux. Certains apportent de l'eau s'ils viennent des comètes, d'autres apportent un peu de carbone, etc. Et puis c'est très chaud et la planète se refroidit. Quand elle se refroidit, elle se construit une atmosphère. Il y a un peu de densité, il va y avoir de l'eau à la surface. Donc Mars démarre exactement comme la Terre. On a les mêmes éléments. Malheureusement, la planète est petite, elle va perdre son atmosphère, son champ magnétique, et puis tout va s'arrêter. Elle se gèle dans son passé. Et c'est ça qui rend Mars intéressante, parce que le premier milliard d'années, c'est le même. Et puis ça s'arrête. Et non seulement ça s'arrête, mais ça se gèle. Et donc j'ai une photographie de la Terre ancienne. Et j'ai vu avec Curiosity qu'il y avait ce qu'il fallait normalement pour l'habitabilité. Mais je sais déjà que si c'est allé jusqu'à une vie un petit peu développée, à l'exemple de ce qu'on avait dans le premier milliard d'années sur Terre, c'est extraordinairement ténu. On va se retrouver avec des bactéries, ce qu'on appelle même des matelas de bactéries. Et donc ces bactéries, elles ont vécu. Qu'est-ce qu'il en reste 3 milliards d'années après ? La Terre nous montre que les traces seront très 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 ténues. Donc on a deux choix. Je vais sur place ou bien je les trouve. Ouais, ça va être dur, hein. Parce que c'est des pouillèmes de quelque chose dans un coin qui, plus est, ont survécu sous forme de... Alors, ce n'est pas des fossiles à ce stade-là, ça s'appelle des biominéraux. Alors, je vais vous prendre un exemple très simple. Prenons une poule. Une poule fait un œuf. La coquille d'œuf, c'est un minéral, hein. C'est pas organique. N'empêche que c'est produit par une poule. C'est un biominéral. Ça, c'est l'exemple le plus simple. Pour moi, mes bactéries, on va voir quelles traces minérales elles ont laissées dans la roche. Et quand j'ai dit tout ça, les gens disent, dis donc, vous allez chercher un truc qui est vraiment pas facile à trouver. Déjà, sur Terre, on a du mal, parce qu'il y a l'érosion. Donc, on va vous donner deux stratégies. Vous avez droit à deux cartouches. La première, c'est sur place. Au cas où vous êtes vraiment bon, vous allez trouver des traces de vie sur place. Donc, on a équipé notre rover Persévérance d'instruments qui, potentiellement, peuvent trouver des traces de vie.
Et c'est pour ça qu'on se pose sur le site qu'on a appelé G0.
Oui, G0.
Qui est le reste d'un ancien lac.
Exactement, parce que la vie, il faudrait non seulement qu'elle se développe, et on sait que les endroits privilégiés, ben je vous l'ai dit, c'est là où il y a de l'eau liquide, et puis c'est là où l'eau stagne, et éventuellement, ensuite, alors ça s'appelle la taphonomie. La taphonomie, c'est la préservation de la matière organique. Et là où ça marche le mieux, c'est dans les sédiments. Donc les sédiments fond de lac, genre un limon. Et donc, dans G0, on nous dit, ben, vous explorez, vous voyez ce que vous trouvez. On n'y croit pas trop.
Donc ça, c'est la première cartouche.
Ouais, c'est la première cartouche. On n'y croit pas trop. Alors évidemment, si vous voyez un lapin passer, c'est plus simple. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on cherche.
Nous, on si va on repère un lapin ça. Sur Mars, ça va changer la donne quand même.
Ah oui, là, ça va...
Il faut le dire.
Mais il paraît qu'il est toujours caché derrière les caméras. Il se cache. et donc, la deuxième cartouche, c'est dire, bon, ne vous inquiétez pas. Si vous ne trouvez pas, prenez des cailloux. Vous les prélevez. Vous les forez. Vous les mettez d'abord dans votre poche. Donc Persévérance va se balader avec des échantillons. Quand vous en avez quelques-uns, faites-nous un petit tas. Et puis continuez. Vos instruments, vous les utilisez cette fois-ci pour caractériser autour des échantillons. Et il faudra aller les chercher. Et c'est là où vous dites, la deuxième cartouche, c'est le retour d'échantillons. Quand on demande à notre communauté de scientifiques de quoi on rêve, on a tous le même rêve, ça vous paraît étonnant. On veut tous un morceau de Mars dans notre labo. Alors, on en a quelques-uns quand même déjà. Ici, à la Cité de l'Espace, il y a un morceau de Mars. On a quelques météorites qui viennent de Mars. On ne les a pas choisies. Elles sont arrivées à l'occasion d'une énorme explosion. On fait de la belle science avec. On les appelle les SNC, ces météorites martiennes. Mais ce n'est pas la même chose qu'un caillou que vous avez choisi, que vous avez documenté en disant « Je l'ai prélevé là. » À droite, il y avait une petite veine blanche qui était de sulfate de calcium. À gauche, il y avait des petits grains. Ici, il y avait telle strate. Donc, on va prélever des échantillons documentés. Et on les veut dans nos labos. Pourquoi ? Parce que Sur Persévérance, on a quoi, 100 kilos d'instruments. Et encore, il y en a un gros, le franco-américain, s'il se trouve, c'est le plus gros. Il doit faire 10 kilos à lui tout seul. Mais il a une précision qui fait mal au cœur. Certains me disent, on dirait de la science du 19e siècle. Je dis, ouais, mais c'est vrai, mais c'est sur Mars. Au 21e siècle, ce que fait Persévérance, on le fait 1000 fois mieux dans nos labos. Simplement, on a des instruments qui font la taille d'une maison. On a des sondes ioniques, des analyseurs de masse absolument extraordinaires. Nous, on fait ce qu'on peut sur place. Donc, c'est vraiment ce truc à deux coups. Donc, on veut nos échantillons. Une fois qu'on aura nos échantillons, on va tellement bien les regarder qu'on pense qu'on pourra dire y a-t-il eu de la vie ou pas sur Mars. Malheureusement, il faut les prélever et les rapporter.
Et les rapporter. Et ça, c'est quand même une autre paire de manches. Pour l'instant, on n'y est pas.
Alors, pour l'instant, on y est pas.
On l'a imaginé.
On l'a imaginé. Et c'est même un peu étonnant, c'est que les agences nous ont dit, allez les prélever. On leur a dit, mais attendez, vous ne savez pas les rapporter. Ils ont été malins, ils ont dit, vous inquiétez pas, ça c'est notre problème. Vous nous prouvez que ça vaut le coup de les rapporter. Et donc, on a aussi pour mission de dire, pas mal celui-là. Et je regarde un échantillon. En plus, je sens qu'il y a un peu de chimie organique. Suffisamment pour motiver la NASA et l'Agence spatiale européenne
pour aller les chercher.
Et aller les chercher, c'est compliqué, parce qu'il faut envoyer un véhicule, on parle de 2026, le véhicule part vers Mars, il se pose à côté des échantillons, déjà il faut de la précision, après il y a un petit, ce qu'on appelle un fetch rover, un truc qui fait le petit poussé là, qui va ramasser tous les échantillons, à la fin on a moins d'un kilo, hein. Il les rapporte au pied d'une fusée, on va enfin revenir de Mars. On n'a jamais, les gens me disent toujours, il est où votre, il revient quand? Je dis, ben non, il revient jamais. On n'a jamais posé une fusée pour apporter Curiosity, Viking ou tous ceux d'avant. Ils sont toujours là-bas. Et puis il y en a même qu'on a écrasé. Enfin, voilà, c'est ça l'exploration spatiale. On ne revient jamais sauf de la Lune.
Encore récemment, les Chinois d'ailleurs.
Les Chinois et les Soviétiques qui ont fait des retours automatiques. Et ben là, on va faire la même chose. Donc une fusée qui décolle de Mars, c'est un missile d'à peu près 4 mètres de haut qui met en orbite nos échantillons. Une sorte de ballon de basket, un peu plus gros, qui fait bip bip, mais qui est en orbite parce qu'il y a tout juste assez d'énergie pour arriver en orbite. Et donc, on envoie un troisième véhicule. Le troisième véhicule, il attrape autour de Mars le ballon. Il le prend dans ses serres. Il l'encapsule dans un véhicule de retour et il revient sur Terre. Et là, il le lance sur Terre. Et sur Terre, on se pose avec parachute, machin. Et donc, il nous faut 3 missions. Donc, on n'est qu'à la première. Si tout va bien, notre planning fait que nos échantillons, on les aura sur Terre en 2031. Et là, en 2031, alors là, tous les scientifiques se mettent en ligne en disant « je peux avoir un gramme, je peux avoir un milligramme » et il va falloir étudier.
Qui les récupère ? Les Européens ou les Américains ?
Alors, on est ensemble dans cette affaire. Il y a la NASA et l'ESA qui sont les deux grandes agences européennes, américaines et européennes. Et donc, on aura tous des échantillons avec des protocoles de sécurité. Alors, ça, c'est le sujet intéressant. Il y a 2-3 ans, on en parlait légèrement. On disait « bon, allez ». On a une mission, c'est de ne pas polluer Mars. C'est vrai. Moi, quand je m'engage, quand je signe en disant « on est prêt à partir pour notre instrument », je dois dire « il a été nettoyé pour ne pas polluer Mars ». C'est logique. Mars a un potentiel d'habitabilité, il n'y a aucune raison que j'aille mettre une bactérie. Elle pourrait se développer. Pire, je pourrais la rapporter et croire qu'elle vient de Mars, alors qu'elle vient de la Terre. Donc, c'est sain. Ceci, c'est tellement difficile de nettoyer nos instruments qu'on n'y arrive pas vraiment, donc... On ne part jamais avec zéro, mais avec un plafond maximum, une sorte de bruit. Et voilà, ça, c'est la règle.
Ça, vous ne l'avez pas caché, vous n'avez pas dit aux Américains.
Ah, non, non, mais aussi. Ah non, non, ils nous disent, vous devez une spec à tant de spores par mètre carré. Et pourquoi ? Parce que vous n'arriverez pas à faire mieux. Il faudrait étuver l'ensemble du véhicule, et ça, on ne sait pas le faire. Et le garder propre en haut de la fusée, on a bien du mal, etc. Donc, on garde propre. Après, et le risque de polluer la Terre. Pourquoi polluer la Terre avec un kilo d'échantillons ? Il y a peu de chance. Sauf s'il y a un Covid martien. Et donc, quand nos échantillons arrivent sur Terre, on va les préserver dans un laboratoire pour étudier nos échantillons. Alors, on pense qu'il y en aura au moins 2. Un aux États-Unis, un en Europe, parce que c'est ce qu'il y a. Ces questions de la vie, elles sont tellement compliquées. S'il y avait une contamination, quelqu'un ouvre la porte sans faire attention, etc., d'un côté, ça serait dommage de perdre tout. Donc, on va en avoir 2. Et puis, une fois qu'on aura regardé ce qui est vivant, probablement, on pourrait stériliser les échantillons et après les distribuer partout dans le monde pour analyse. Et là, on est peut-être à la frontière d'un nouveau... Alors, le mot à la mode, c'est paradigme, hein, c'est ça ? C'est-à-dire un nouveau état de fait qui est, ou plutôt une nouvelle problématique, qu'est-ce qu'il y a derrière le retour d'échantillons ? Parce que des missions in situ, on peut toujours en trouver. On va vous trouver des planeurs, des hélicoptères... Persévérance a déjà un premier drone.
Il y a un petit drone.
Il y a un petit drone, ça c'est cool. C'est un développement technologique. Mais on pourrait en faire un plus gros qui porte des instruments infrarouges, moi j'aimerais bien, des choses comme ça. Donc des idées, on en a. Mais si je suis l'homme politique qui doit décider, parce qu'à la fin c'est quand même les politiques qui décident, hein, c'est de l'argent public, je vous rappelle, il faut se dire, bon, vous avez votre retour d'échantillon, mais si on attendait, ça pourrait être ça la position. Donc on ne voit pas bien. Là je suis étonné, c'est-à-dire, à part le retour d'échantillon, on n'a pas grand-chose.
Pas grand-chose au catalogue.
Ben oui, en se disant, si on a plein d'idées, mais on n'a rien qui se concrétise. Et pourquoi ? Parce que le politique dit, attendez, on va peut-être le retour d'échantillon. Alors, le retour d'échantillon arrive. Donc, j'ai mon échantillon dans le labo. On ne trouve rien. Là, si on ne trouve pas de traces de vie, les gars, ils vont dire, bon, on fait une pause là. Hein. C'est bien, c'est un
bien,
bon résultat.
Vous êtes
mais la nature, c'est Curiosity a trouvé l'habitabilité de Mars. On aurait pu ne pas la trouver. Donc, si on n'a pas de traces de vie, ils vont nous dire, bon, ben, on l'a fait, hein, ça nous a coûté X milliards. Plutôt autour du disque du milliard. Ce qui serait pour moi dramatique, ce serait qu'on ne sache pas répondre. Ça, ça ne serait pas bon pour la communauté. Si la communauté voit l'échantillon, on va dire, et il se retourne, il dit, à la fin, il y a la vie ou pas ? Ouais, peut-être bien, avec telle hypothèse, peut-être pas. Là, le public, comme les politiques, vont dire, les gars, c'est oui ou c'est non, hein, va peut-être pas falloir partir un trait. Et si jamais on ne sait pas répondre, là, on est dans l'embarras. L'embarras, il est vraiment, on n'a pas été bon. C'est pas oui ou non, hein, c'est plus fin que ça, mais il faudra aller vers ça. Si c'est non, ça peut se terminer. Si c'est oui, on pourrait rejouer.
Et on racontera toute cette histoire de cette épopée martienne, humaine martienne, dans les prochains épisodes de Mars, la nouvelle Odyssée. Merci beaucoup, Sylvestre Maurice.
Merci à vous.
Et cette conquête martienne évoquée à l'instant avec Sylvestre Maurice, on va l'envisager dès le prochain épisode de Mars, la nouvelle Odyssée, en imaginant déjà le vaisseau, la fusée ou les deux capables de nous y transporter.